cadeau de mon amour.
Les goûters.
Bonjour. Elles sont comment vos tomes, là?
Les goûters de promesse.
Les tomes.
Oui, pardon, monsieur.
Je vais prendre deux tomes, les petites. Mais qu'est-ce qu'elle a, la dame?
Ça s'appelle la division du travail. Elle sourit et je parle.
D'accord.
Denis Chessou.
Et lui, il encaisse.
Merci.
Les légumes, Candide, hein, tout ça.
Monsieur le maire, vous voulez goûter un de nos fromages?
Oh non, 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 merci. Non, sans façon.
Sur France Inter.
À bientôt.
À bientôt, monsieur le maire. Bonne journée.
Oui, bah nous aussi, on va effectivement le goûter. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir en ce dimanche. CO2 mon amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, ça va être le territoire aussi aujourd'hui. Avec Patrick Henry à la technique, nous avons préparé l'émission avec Marion Philippe et c'est Jérôme Boulet qui la réalise. Alors avant, quelques mots sur la préparation des vaches pour le salon de l'agriculture, dont on ne sait toujours pas qui du visiteur ou du bovin regarde l'autre. Fascinés que nous sommes par les taureaux d'une tonne hein, qui ont pris le métro pour venir voir le Parisien aux yeux ébobis, porte de Versailles. Nous allons d'abord saluer nos amis chasseurs qui, personne n'en doute, sont les premiers écologistes de France et surtout qui votent bien. Après enquête de l'Office français de la biodiversité, on a appris seulement mardi le flingage de deux aigles de Bonelli en novembre dernier. Dans le Gers et les Landes, nos deux rapaces, espèces strictement protégées, maladroitement, ils n'ont pas regardé en traversant et ils n'ont pas vu les bastos qui venaient de la droite. Ils ont fait donc un refus de priorité et ils sont morts. Eh oui. Alors vous me direz, il semble un peu compliqué, même pour un débutant au front bas, de les prendre pour des pigeons ou des lapins volants. Il reste aujourd'hui 38 couples d'aigles de Bonelli en France qui habillent le ciel. Alors, loin de moi vraiment de faire des généralités faciles chez les chasseurs, mais cela vraiment c'est intéressant. On va donc saluer ces deux crétins obscurantistes du Gers et des Landes qui ont réduit à néant la beauté d'un oiseau en plein vol. Bah, il ferait beau voir hein, que l'aigle de Bonelli nous nargue en bouffant librement du lapin de Garenne et de la perdrix rouge. Deux aigles encore viennent donc de payer le prix de la connerie épaisse et du sang. Mais alors attention, 60 millions d'humains dans ce pays qui mangent aussi du lapin, oh là, va falloir sévir. Eh oui, il me... où est-ce qu'il est mon friseur à bouclettes? Dis donc Dédé, coupe France Culture là, arrête de racler le foin, c'est vraiment le foutoir dans cette stabulation. Pas moyen de retrouver ses affaires. Où est-ce que t'as mis encore mon babilis? C'est demain qu'on monte à Paris, j'ai encore à prendre ma douche. Aller chez le coiffeur, me faire cirer les sabots et les cornes, brosser les cils. Et il n'est pas question que je parte sans me faire friser. Hein. Donc chaque année, c'est toujours le même cirque. Hein. T'as vraiment aucun sens de l'ordre. Alors ça, monsieur, il est content d'accrocher mes trophées aux poutres de la grange tous les ans, hein, pour se faire mousser. Ça, la plus belle blonde d'Aquitaine, championne de France des races à viande, meilleure à loyaux du Sud-Ouest, Miss Bovin 2019, ah, là, il y a du monde, là. Allez, bouscule-toi un peu, hein. Est-ce que la bétaillère, elle est lavée? Le camion à granulés, il est parti, hein. Et puis t'as réservé mon box, la porte de Versailles? Bah, il faut se remuer, mon gars, hein. C'est pas encore gagné, la médaille 2020. La concurrence, elle est rude. Parce que tu sais, moi, j'ai reçu un mail de Marguerite, la belle Aubrague de Lozère, et puis aussi de Cornes sans brume, jolie collègue de Salers du Cantal. Eh ben, elles sont parties dans la nuit et se sont déjà faites maquiller les yeux, décorer la queue. Ah ben, son manchot, son patron, il est pas manchot, lui. Ah, j'en suis tout étourdi. Non, chez nous, les animaux dits de production, il y a des mots qu'il ne faut pas utiliser. Hein. Être étourdi, ça, depuis que L214 nous offre des vidéos gratuites montrant des copines certifiées bio encore là cette semaine, en grande souffrance au moment de ce trou noir qu'on appelle l'abattage, ça porte malheur. Bah, je te préviens, Dédé, hein, si on rate le salon cette année à cause de toi, eh bah, tu peux toujours courir pour le reportage sur France 3 Région. T'iras leur faire visiter la fosse à Purin et ta collection de pneus posés sur l'ensilage. Hein. Bah, tu vas me rendre folle. Hein. Bah, j'ai le qui tourne. Allez, lâche cette pelle, retrouve-moi mon fer à friser. Oui, c'est presque comme ça que ça se passe donc chez les bêtes. Alors au menu, du bleu du Vercors, une histoire de vache, d'un produit, d'un territoire, et puis aussi Philippe Dubois, auteur d'un livre qui s'appelle « Toutes les vaches de France », qui va nous éclairer sur les vaches à petit effectif.
Vous ne savez pas écrire, vous ne savez pas lire, vous savez tout et bien pire, mais vous ne pouvez le dire. Moi, ce que j'avais compris, le rêve n'est pas fini, quand le rêve est ça. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes, et toi tu regardes ton chewing-gum. ce que tu vois. Je ne sais pas ce que je vois. Ça met en joie. Tu dessines des bonhommes. Et toi, tu colles ton chewing-gum sur ma tête. Sur ma tête. Arrête. Arrête. Je sais qu'il existe une forêt oubliée, mais je ne sais pas par où passer. Je ne sais pas lire en toi. En toi.
Qu'il est bête.
Vous ne savez rien des migrants, des guerres civiles au Soudan, le Bataclan et Charlie. Vous n'avez pas tout saisi, ce que vous avez compris. Le rêve n'est pas fini quand le soleil donne. Comment je vis, pourquoi je suis, toi tu t'en fous, tu n'es pas fou, tu dessines des bonhommes. Et toi, tu parles avec un chewing-gum. Ce que tu vois, je ne sais pas. Ce que je vois, ça met en joie. Tu fais planer des bagnoles. Et toi, tu fais le rossignol dans ma tête. C'est la fête.
Oui, un petit coup de rossignol, c'est presque une chanson naturaliste. Je dis bien après, c'était Philippe Catherine, donc vous l'avez reconnu. Bonhomme, victoire de la musique cette année, youpi.
CO2, mon amour.
Et le fromage, il est pas bon le fromage.
Denis Chessou.
Ça, il faut reconnaître, c'est meilleur à manger qu'à sentir. Hein.
Sur France Inter.
Mais oui, Saint-Martin-en-Vercors, jolie commune de la Drôme, 360 habitants et plus de vaches encore, ça fait du bleu. Alors au Moyen-Âge, vous aviez les fermiers du plateau du Vercors qui payaient leur impôt au seigneur de Sassenage avec du fromage et il est devenu au fil du temps le bleu du Vercors, Sassenage. Donc c'est une très jolie pâte persillée. Et au début du siècle, vous aviez des fermiers fromagers qui ont décidé de relancer les fabrications au fil des années avec pas mal de passion. C'est devenu donc une AOC, une AOP. Et je vous propose aujourd'hui une histoire de vache, celle de la Villarde. Alors bon, disons-le tout de suite, elle est un peu cosmétique encore au milieu des abondances et des Montbéliardes, mais elle renaît. Une vache, donc un fromage, un territoire, un parc naturel régional qui a fédéré les volontés. Ça nous fait une belle histoire. L'élevage a pu renaître aussi grâce à ce bleu. Le bleu, il n'était pas dans le ciel, hein. C'était le jour de la fête à Saint-Martin, mais l'envie y était. Après un bon petit orage dans le Vercors, là tout de suite la température a baissé. Bonjour Daniel Vignon.
Bonjour Denis.
Alors, on est chez vous Daniel, donc on est à Saint-Martin du Vercors et nous sommes à Rocherousse comme son nom l'indique.
La falaise qui est en face, là, juste en face de nous.
Alors ce qui est intéressant, c'est quand même de voir une agriculture de montagne qui fonctionne pas mal, qui est aidée bien sûr et heureusement, mais qui fonctionne bien. En fait, vous n'êtes pas très nombreux ici.
Non, eh bien, en agriculteur, on est de moins en moins nombreux, on va dire. La déprise agricole est valable de partout,
ouais.
Même sur des territoires où le lait est bien payé. Donc, c'est vrai que nous, on s'en sort bien parce qu'on fait de la transformation à la ferme, on fait de la vente directe, on vend en circuit court, on est en agriculture biologique, on est en AOP bleu du Vercors Sassenage, ce qui nous permet en fait d'avoir une bonne valeur ajoutée sur notre produit,
ouais.
Et ce qui nous permet en fait de vivre de notre métier. Tout simplement.
Donc en fait, sur l'exploitation, vous avez combien de vaches?
Donc nous avons 35 vaches.
Ouais.
On transforme à peu près 180 000 litres de lait. Et on se retrouve en fait à travailler à 3 sur la ferme. Donc 3 métiers en un, hein, puisqu'on est producteur, on est transformateur, on est vendeur. Et puis on arrive avec tout ça à sortir une bonne valeur ajoutée. C'est-à-dire que toute la valeur ajoutée que normalement les industriels gardent pour eux, nous on les garde sur l'exploitation. Et surtout on les garde sur le territoire du Vercors. Ce qui fait qu'on fait vivre le territoire.
Alors Daniel Vignon, lorsque l'on parle de bio, évidemment, on pense tout de suite à la nourriture. Donc c'est ça dans le cahier des charges.
En fait, non. Le cahier des charges de l'AOP n'est pas exclusivement en bio.
Ça, on est d'accord.
On est d'accord. Donc par contre, certains producteurs font le choix d'avoir deux cahiers des charges. Mmh. Le cahier des charges de l'AOP et le cahier des charges du bio. Donc c'est notre cas. Pour moi, ça allait de soi quand je me suis installé. Et puis surtout, moi, ce qui allait de soi au départ, c'était de mener le produit jusqu'au bout. Donc c'était bien de transformer et de vendre et d'avoir le contact avec le consommateur.
Quand vous dites ça allait de soi de passer en bio, d'être en bio, pourquoi ?
Ici, en fait, le Vercors, on est quand même sur un territoire qui a été préservé. On a été resté sur une agriculture traditionnelle. On n'a jamais eu d'agriculture intensive sur le Vercors. Donc, on faisait déjà une agriculture, on va dire, très propre par rapport à la vallée, sans vouloir trop dénigrer la vallée pour autant.
Non, mais ça, c'est une réalité.
C'est une réalité, voilà. Ouais. Et donc, le passage en bio pour le Vercors a été quelque chose d'assez naturel. La preuve, c'est qu'on a la plupart des producteurs de Saint-Martin à Vercors qui sont en bio.
Alors évidemment, il y a cette donnée aussi environnementale à laquelle vous participez. Là, moi, je me tournais vers Pierre Weck, parce que Pierre, donc, il a été pendant très longtemps le directeur, alors à la fois des parcs naturels régionaux. Aujourd'hui, donc, on en a 53, donc, en France.
54, Denis.
54 ?
Oui. Oh là là, je... Le dernier, c'est le Médoc.
Ah, c'est le Médoc. J'étais resté
après
à l'Aubrac.
Après les vaches et l'Aubrac et le fromage, et c'est
voilà.
Le vin. Et
après, c'est le Pinard. Bon, ben, c'est très bien. Et puis, vous avez été aussi longtemps le directeur de ce parc naturel régional, donc, du Vercors. Voilà, c'est-à-dire que c'est impossible d'imaginer de l'intensif ici entre, pour garder une qualité des eaux. Et Dieu sait si l'eau, c'est quand même une des choses les plus importantes ici, parce qu'elle coule et très très vite, elle redescend.
Ben oui, c'est Vercors est un château d'eau, mais c'est un château d'eau avec des trous, quoi. Ouais. Parce que tout s'écoule dans la plaine. Et effectivement, c'est un massif karstique qui fait que l'eau ne reste pas en surface et s'évacue. Donc on est un bon château d'eau puisqu'on alimente la plaine de Valence et du Rhône en eau d'irrigation pour l'agriculture. Mais de l'autre côté, c'est une ressource qu'il faut bien sûr surtout préserver, puisque je crois que les enjeux des 10 prochaines années, ça va être effectivement la ressource en eau. Et je crois que c'est un enjeu qu'il faut prendre à bras le corps aujourd'hui. Et dans un massif comme le nôtre, ben, les questions aussi touristiques et d'enneigement artificiel sont des questions à mettre sur la table et de s'interroger jusqu'où on va dans l'équipement ou le suréquipement peut-être de massifs
neige,
vis-à-vis des canons à neige, de la neige de culture.
Aujourd'hui, comment justement on peut tracer un avenir avec donc de l'agriculture qui est une des clés?
Oui, et c'est une clé pas récente. Hein, la symbiose entre ce que vous disiez tout à l'heure, un territoire, ses habitants et ses agriculteurs, c'est comme ça que s'est créé le parc naturel régional du Vercors dans les années 70. C'est issu d'une volonté d'urbains d'un côté qui voulait préserver un massif qui avait des richesses en termes de biodiversité et de paysages extraordinaires, et de l'autre côté d'agriculteurs qui disaient « Nous, on veut bien que ce soit préservé, mais on veut continuer à vivre sur notre territoire. » Et le parc s'est créé sur cette logique-là d'urbain protecteur de la nature qui voulait en faire du Vercors un peu leur précaré, leur réserve, et de l'autre côté des agriculteurs où il y avait une volonté de maintenir l'activité agricole sur le territoire. Et du coup, il y a une association qui s'est créée, non pas contre le parc, mais pour travailler avec le parc. Et c'est l'association pour la promotion des agriculteurs du parc du Vercors.
Alors moi, j'ai envie d'en savoir plus quand même sur une bête qui est la Villarde. Alors elle est un peu plus haut, notre vache. Et j'ai vu que dans chaque troupeau, il y avait au moins une Villarde.
Oui, alors il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a au moins une. En fait, dans le cahier des charges de l'AOP, on a inscrit 3% de Villarde. C'est quand même la race locale.
Oui.
C'est une race qui a beaucoup disparu après la guerre, puisqu'en fait, elle a servi de nourriture aux troupes. Et puis, en fait, le Vercors s'est repeuplé en vaches à partir de races de souches laitières, et donc notamment de Montbéliard et d'Abondance. Dans notre AOP, donc, du coup, on a trois races de vaches. On a la Montbéliard, l'Abondance et puis la Villarde. C'est la race du territoire, c'est l'emblème du territoire. On a deux emblèmes aujourd'hui sur le Vercors, c'est le bleu du Vercors, ça se nage, et la Villarde. Et donc, on n'en a mis que 3% dans les troupeaux pour l'instant, parce que c'est quand même pas une très grosse laitière. Économiquement, c'est un peu juste. Pour l'instant, on n'a pas du tout assez d'animaux. C'est une race à très faible effectif. On a 400 mères. Et donc, on va essayer de faire de la sélection dessus pour avoir une race qui redevienne laitière, hein, et retrouver en fait une race qui soit économiquement rentable et qui soit l'emblème du territoire. Hein, on est content quand on va sur certains territoires de retrouver une race de vache. Voilà, et ben on va essayer de faire la même chose sur le Vercors.
Pierre Weck, comment on peut se projeter maintenant dans ce territoire avec le réchauffement climatique, 1,4 degré, ça c'est pour on va dire l'ensemble de la France. Et ici, bah, on le voit très bien, déjà les ciels sont compliqués, ils sont aussi superbes qu'ils sont compliqués. Quand un orage tombe, c'est quand même très fort. Le problème de l'eau qui va arriver donc à la fois en abondance et peut-être pas assez. Comment on pense ce territoire ?
Je pense que le Vercors a toujours été un territoire en transition. C'est-à-dire que c'est un territoire qui a toujours imaginé des modèles qui se projetaient dans l'avenir. Et aujourd'hui encore, quand on voit le système d'exploitation agricole qu'il y a sur le Vercors, c'est assez exemplaire, parce que ce sont des exploitations qui valorisent leur production en direct. Les circuits courts dans le Vercors, on en parle depuis 15 ans. Il y a 15 ans, on a lancé sur le Vercors, avec le parc et les collectivités, un programme qui s'appelait Alimentation, Santé, Territoire.
C'était novateur déjà.
C'était novateur à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, il y a de nombreux collectifs d'associations qui existent sur le Vercors, qui mènent des petites choses à l'échelle du citoyen, à l'échelle de la communauté de communes, ils sont déjà en avance, ils sont déjà dans le mouvement, dans le nouveau modèle économique de l'agriculture de demain.
D'une manière générale, c'est quand même la qualité, Pierre, qui paye.
Bien sûr que la qualité, c'est la qualité qui fait le, je sais, ce rapport entre l'homme et la nature ici, qui est fort, quoi, qui est permanent, qui fait aussi que ce territoire est attractif au point de vue touristique et qui garde ses paysages ouverts, ses paysages magnifiques, que ce soit ici, sur ce qu'on appelle le plateau du Vercors, mais sur les hauts plateaux aussi, qui est un espace extraordinaire, qui a toute une histoire humaine aussi, puisque aujourd'hui, il y a encore 18 000 moutons qui montent là-haut en transhumance.
Alors, on a de la pluie gentille, là, qui est, enfin, oui, là, elle est plutôt sympathique. On a le soleil aussi, donc, qui sort, voilà. Il manque un petit peu de vent. Bon, tout ça, ça peut nous faire un peu des énergies renouvelables, Pierre Weck. Mais alors, peut-être pas n'importe comment et à n'importe quel prix.
C'est sûr, puisque effectivement, le vent, il y avait quelques projets d'éoliennes il y a quelques années dans le Vercors. Mais en fait, ça a permis de s'organiser. Effectivement, non pas contre les énergies renouvelables, mais contre l'éolien, parce que l'éolien, c'est quand même impactant d'un point de vue du paysage. Et qu'ici, le fonds de commerce, je le dis toujours, c'est le paysage. Bon, donc aujourd'hui, le Vercors...
Les associations ont gueulé, tout ça.
Voilà. Puis le parc avait joué un rôle de dire, attention, essayons, OK pour l'éolien, parce que c'est une énergie renouvelable, mais pas à n'importe quel prix, pour faire en sorte aussi que, d'une part, l'impact paysager soit le moindre, deuxièmement, que les retours économiques profitent pas qu'aux particuliers où le mât est implanté, mais que ça participe à la collectivité, au bien commun. Quoi. Et donc aujourd'hui, par contre, il y a beaucoup d'actions en matière d'énergie renouvelable, que ce soit le bois, historiquement, depuis 30 ans. Ici, vous avez toutes les communes, pratiquement, ont une chaufferie bois qui permet, bois déchiqueté, qui permet de chauffer la mairie, l'école, la salle des fêtes, etc. Voire comme à Vassieux-en-Vercors, qui n'est pas loin d'ici, il y a un réseau de chaleur, une installation communale qui irrigue tout un lotissement donc de particuliers, plus les bâtiments communaux. Donc ça, c'est fait des années et des années que des projets existent de cette nature. Le photovoltaïque, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y avait, en 1990, de mémoire, il y avait un programme européen qui a permis donc d'installer des panneaux photovoltaïques partout. Et aujourd'hui, des initiatives citoyennes qui s'organisent pour essayer d'investir dans des panneaux solaires et de partager là aussi collectivement les bénéfices de cette ressource renouvelable.
Daniel Vignon, là on est juste à côté de votre fromagerie et là je vois donc des panneaux et là vous chauffez l'eau.
Alors donc nous avons installé du chauffage solaire.
Ah ça.
Et voilà, c'est une installation qui à mon avis est très rentable puisqu'on ça nous permet de chauffer le bâtiment et ça nous permet de sortir à peu près 1000 litres d'eau chaude par jour pour le sanitaire. En fromagerie, on utilise beaucoup d'eau chaude et donc en fait on produit de l'énergie pas chère. L'installation en fait elle est à mon avis très très rentabilisée très rapidement.
Et vous voyez tous les ans à peu près
Nous on économise à peu près 3000 euros de fuel par an. Sur une installation qui a été aidée et qui nous coûte à peu près 12 000 euros, ça veut dire qu'en quelques années on a rentabilisé, on a amorti l'installation et après c'est tout bénef.
Parlons quand même de l'essentiel, le sol. Avant de parler des vaches, le sol et l'herbe. Parce que donc ici, on n'a pas d'ensilage, on a de l'enrubanage. Bon, enfin, on essaie d'éviter l'enfumage, on va dire ça.
Voilà. On a limité l'enrubanage dans notre nouveau cahier des charges. Ouais. Tout ce qui est ensilage est interdit, l'ensilage maïs. On a réussi à bannir les OGM de notre AOP.
Ben oui.
Voilà, ça va de soi, mais ce n'est pas toutes les AOP qui le sont.
Donc ça veut dire
qu'il y a du travail à faire.
Il n'y a pas de soja OGM qui vont arriver sur les ports et après que vous allez pouvoir acheter ici.
Malheureusement, non. Non, je plaisante. Oui. Mais oui, là, tout à fait, on s'est préservé de tout ça.
D'accord.
Et c'est vrai que je crois que c'est un travail qui va être indispensable si on veut être crédible auprès du consommateur aujourd'hui. On a intérêt à avoir un cahier des charges solide et à avoir des règles très strictes. C'est vrai que la volonté ici, c'était d'arrêter l'enrubannage.
Donc, c'est les gros rubans, les gros rouleaux.
Alors, l'enrubannage, en fait, on sèche l'herbe à 50-60%. C'est-à-dire quand elle est quasiment sèche, là, on lui met un film autour et on la conserve comme ça avec un film de plastique autour. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des grands bâtiments qui souvent dénaturent le paysage aussi. Hein, donc, il y a tout un équilibre à trouver par rapport à ça. Mais voilà, après, dans la qualité, je pense, du lait qu'on va produire, on a intérêt à terme à arrêter l'enrubannage.
Nous, on va pas fondre quand même sous la pluie, Pierre Vec. Moi, je suis une vache, je mange cette herbe-là, je suis heureuse, j'ai tout, là. On a un côté près, elle est fleurie, là.
Voilà, je voulais y arriver, Saint-Denis. Vous avez été souvent présent au Salon de l'agriculture pour le concours près et fleurie. Donc effectivement, donc là, je ne sais pas si Daniel il a participé au.
Tu as participé,
t'as pas gagné, mais t'as.
Non, on peut pas le vendre partout. Hein.
Voilà, donc c'est effectivement ça, donc l'esprit qui était né autour de ce concours, qui était initié par les parcs naturels régionaux, de valoriser la qualité, la diversité.
Floristique,
en termes de biodiversité, des prairies, notamment, c'est vrai, de montagne.
Et lorsque l'on parle de prairies fleuries, ça veut dire aussi que c'est quasiment la pharmacie naturelle des vaches.
Des vaches, et puis aussi des abeilles hein, qui viennent là-dedans. Voilà, donc tout ceci, ça participe à un sens qu'on veut donner, effectivement, à cette activité agricole, à son enracinement sur un territoire, à ce rapport entre activité économique et nature.
Ils sont pas mal, hein, nos gens de Saint-Martin en Vercors. On va poursuivre la balade. Tenez, on va partir au Texas avant. Bah oui. Playlist France Inter, Black Pumas, les pumas noirs. Alors même avec le réchauffement climatique, j'ai regardé, ils n'en ont pas encore dans le Vercors. En revanche, ils viennent du Texas et les vaches, ça, ils connaissent. Mais ils n'ont sûrement pas de Villard. Non, pas du tout. Nous sommes donc à Saint-Martin en Vercors, 1000 mètres d'altitude, des falaises, des plateaux. Et qu'est-ce qui se passe dans l'étable ? Alors on est intéressé par le micro, hein ?
Oui, mais se battre pas plus qu'avant. Peut-être.
Ouais, alors attendez, il y a le débat là, c'est parce qu'on est quand même sur une vache sans corne, donc c'est ça l'idée, Pierre. Donc,
mais moi je suis pas d'accord sur les vaches sans corne. Oui. C'est pas une vache, une vache sans corne.
Oui. Ouais, mais t'es pas éleveur, Pierre. T'es pas éleveur.
Ça, quand tu vois une belle villarde avec ses cornes.
Ah bah oui, ça a de la gueule.
C'est que ça a de la gueule. Quand tu vois une belle aubrac. Donc voilà, il y a un mouvement, c'est bon.
C'est pas du tout une mode, c'est pas une mode, Pierre. Non, les bêtes sans cornes, voilà, nous on a une agriculture biologique. Donc qui dit agriculture biologique dit bien-être animal. Bien-être animal veut dire que nos vaches ne doivent pas être à la tâche pendant 6 mois. Nous les vaches, on a 6 mois de neige, on a 6 mois où les vaches restent à l'intérieur des bâtiments. Donc elles ne doivent pas être à la tâche. Donc elles sont en liberté sur une aire paillée et... Eh ben une vache, c'est pas forcément gentil. Une vache, ça se bat. Et les vaches qui se battent, eh ben, ça fait du dégât. Et on a vécu ça et on l'a mal vécu parce qu'il y a des vaches qui sont restées dans l'histoire. Donc c'est vrai que ben, systématiquement, on coupe les cornes.
Alors, on a cette odeur de foin. Que vous imaginez bien.
Même si on en était, en fait, on complémente toujours un petit peu avec du foin...
Il y a un séchoir là.
Donc on a un système de séchage en grange.
Ouais.
Donc on rentre le foin presque sec et on finit de le sécher en grange. L'avantage c'est qu'il reste moins longtemps au soleil. Ouais. Donc on brûle, il reste moins longtemps aux UV. Donc on va avoir des meilleures qualités de foin, meilleurs composants. Hein, on va garder les vitamines. Et en fait en agriculture biologique, l'intérêt c'est d'être en autosuffisance. Au niveau de la production, et plus on va avoir un aliment de base qui est le foin ou l'herbe riche, et moins on aura besoin de complémenter. C'est-à-dire que moins on va acheter de céréales et moins on va être dépendant de l'extérieur. Alors là, vous avez vu, on a une griffe à foin. Alors ça, c'est un outil génial parce que cette griffe à foin, c'est ce qui va nous permettre de donner le foin, de distribuer en 5 minutes, on aura distribué le foin aux vaches et aux génisses.
Oui, donc en fait, ce sont deux rails qui ont été posés presque sous le toit, au faîtage du bâtiment.
Avec l'autochargeuse, on décharge le foin, on empile sur le tas, et puis l'hiver, on reprend la griffe. On n'a pas besoin de démarrer de tracteur, on n'utilise plus de filet, on n'utilise plus de plastique. La guerre du plastique est déclarée, hein, donc il va falloir aussi s'adapter à tout ça. Le combat des dernières années, c'était les OGM. Le combat de demain, on sait déjà que ça va être le plastique. Donc à nous à nous adapter avant que la contrainte arrive.
Oui, parce que ça veut dire que ça va éviter, mettons, les balles de foin que l'on voit en revêt de plastique.
Voilà, tout à fait. Et qui sont aussi gourmands en temps pour l'agriculteur, oui. Parce que c'est long à mettre en place. C'est aussi gourmand en énergie, parce qu'il y a beaucoup d'heures de tracteur. Le fait de faire du foin en vrac, on économise beaucoup d'heures de tracteur. Donc ça veut dire qu'on économise du carburant, on économise de l'énergie.
Bouillette. Allez. Viens.
Toujours à Saint-Martin, donc en Vercors. Olivier Puteau, bonjour à vous.
Bonjour à vous, Denis.
Alors Olivier, vous êtes le jeune directeur de ce parc naturel régional du Vercors. Comment fait-on pour garder donc les terres ? Parce qu'il y a quand même une concurrence au niveau du foncier.
Oui, donc effectivement, la reprise des exploitations sur le Vercors, c'est quelque chose d'assez compliqué. Parce qu'il y a effectivement d'autres usages qui peuvent le convoiter. On pense notamment sur la partie nord à l'urbanisation avec la proximité de Grenoble. Mais la chose la plus importante, c'est au moment où un exploitant va céder son exploitation, d'avoir déjà une idée de qui est en mesure de le reprendre, que ce soit dans le cadre familial ou hors cadre familial, parce que de plus en plus, c'est comme ça que les choses se déroulent. Et donc de pouvoir aussi accompagner ceux qui souhaiteraient reprendre, parce que parfois les investissements, quand c'est hors cadre familial, sont très très lourds.
Quand on parle du bleu du Vercors, c'est en fait un lien et aussi un lion au-delà d'être un fromage ?
Oui, tout à fait. Donc, c'est vraiment l'emblème du territoire qui permet à tout le monde de se connaître. Et donc, il y a vraiment cette volonté des agriculteurs de travailler avec les autres pour organiser quelque chose en commun. Et c'est aussi quelque chose qui nous sert d'un point de vue touristique, parce que sur toutes les brochures touristiques, on valorise nos produits locaux et en premier lieu, ce bleu du Vercors Sassenage.
Alors, énergie et territoire, qu'est-ce que l'on fait ici et quel est, on va dire, l'apport du parc?
Alors, on essaye d'atteindre un objectif d'autonomie énergétique d'ici 2035. Donc on travaille avant tout, comme on dit souvent, c'est l'énergie qui n'est pas consommée, c'est l'énergie qui est moins compliquée à produire, enfin qui pose le moins de problèmes. Donc on travaille sur les réductions de consommation et donc effectivement, concernant la mobilité, on a énormément de dépenses énergétiques, également en lien avec le tourisme. Malgré tout, le tourisme, ça génère des gaz à effet de serre, quoi qu'on puisse en dire. On travaille aussi sur les habitations, leur modernisation, pour pouvoir justement limiter les consommations d'énergie pour se chauffer. Donc voilà, avant tout, réduire cette consommation et puis développer une part d'énergie renouvelable. Donc sur le Vercors, on a la chance d'avoir l'hydroélectricité qui est assez présente, ouais, qui a été mise en place par l'État et EDF à partir des années 50, qui fait qu'on est déjà, de fait, 50% d'autonomie énergétique grâce à l'hydroélectricité.
Donc, entre autres, dans les gorges de la Bourne.
Exactement.
Mais pas que.
Voilà, à Bouvante également. Ouais. Et on a un petit peu de petite hydroélectricité qui se développe, même si ça reste marginal en termes de production. Et donc, maintenant, il faut qu'on arrive, pour partie, à réduire les consommations et puis pour partie, à combler le gap avec des énergies d'origine locale. Donc, on réfléchit à peut-être arriver à planifier à l'échelle du territoire sur ce qui pourrait être fait en accord avec les maires des communes concernées.
Alors Pauline Guillot, moi je vais me tourner vers vous parce que vous êtes toute jeune. Quel âge avez-vous, Pauline ?
18 ans.
Alors 18 ans, et donc vous faites partie de cette association, donc Graines d'éleveurs. Ça veut dire que vous êtes la génération montante.
Alors nous, on est une association d'enfants d'agriculteurs ou de familles d'agriculteurs. Tous, on est passionnés par l'agriculture, surtout par les animaux. On présente la plupart des petits animaux sur les comices. Et donc, après, il y en a qui vont vouloir reprendre et d'autres non, mais c'est pour créer du lien entre nous. Et du coup, ça nous permet de nous regrouper, passer de bons moments ensemble. Pour les futurs agriculteurs ou pas, ça nous permet de nous connaître. Ben, je suis originaire du Vercors. Après, le Vercors, c'est une montagne avec un style d'agriculture bien différent. La Villarde aussi, qui en représente la vache de nos ancêtres, et du coup j'ai envie d'y rester pour aussi de voir continuer les pâturages, les vaches dans les champs, parce que je trouve que c'est important l'herbe et que la forêt ne se referme pas sur le paysage. C'est joli parce qu'aussi il y a beaucoup de prairies et la forêt est maintenue.
Et comment on imagine la suite? Comment on se voit demain?
Avec des paysages entretenus et toujours des vaches dans les champs, parce que c'est les attentes des personnes qui viennent sur le plateau.
Vous voyez, vous éleveuse ?
Oui, moi, mon objectif, c'est de reprendre la ferme familiale.
On va donc quitter cette vie active et solidaire de Saint-Martin en Vercors. Remercions Alexandre Chenet qui a mixé donc ce reportage. Merci à Daniel Vignon, Pierre Vec, Olivier Buteau, Christelle Eustache, que je n'oublie pas, Prisca Manuel aussi, et bien sûr, les vaches.
Gîte rural, tiens. Voilà un métier d'avenir pour les agriculteurs.
CO2, mon amour.
La PAC, ça fait 40 ans que ça dure.
Denis Chessou.
Et ça fait 40 ans que les petits se font bouffer.
C'est très bien, chérie.
Bientôt, pour élever des vaches, il faudra faire l'école hôtelière.
Sur France Inter.
Et les vaches, elles sont quand même toujours là avec Philippe Dubois, naturaliste, auteur, éditeur et amoureux donc des vaches. Bonjour Philippe Dubois.
Bonjour Denis Chessou.
Alors vous avez écrit chez Delachaux et Niesley à nos vaches, ainsi que toutes les vaches de France. Et donc on va quitter peut-être notre très très jolie Villarde, mais quand même on va rester au pays des vaches. Que représente d'ailleurs le cheptel aujourd'hui? C'est quoi le nombre de races?
Aujourd'hui, il y a 42 races en France qui sont originaires de ce pays. 20 qui sont dites principales ou industrielles et 22 qui sont dites à petits effectifs, c'est-à-dire des races qui sont représentées très faiblement. Et sur les 20 races principales, il faut quand même savoir, c'est que 8 races, à elles seules, représentent 96% de l'effectif national bovin. Avec un trio de tête qui est la charolaise et la limousine, qui sont des vaches dites allaitantes, et puis devant, la Holstein, cette fameuse vache noire et blanc qu'on voit dans les champs, qui, elle, est une laitière.
Est-ce qu'on a une idée aussi quand même du nombre d'animaux, de ce qu'on appelle les UGB, ça veut dire unité gros bétail au total en France?
Il y a à peu près 3 millions de bovins, mais ou 4 millions avec les veaux, mais ce qui qu'il faut savoir aussi, c'est que la Holstein, c'est 1 500 000 têtes, donc c'est énorme.
Alors intéressons-nous, Philippe Dubois, donc à ces faibles effectifs. Alors je ne sais pas si les Cotentines, si les Cimentales d'Alsace, si des Maréchines, des Lourdaises, des Ferrandaises ou des Pirouches sont en train de nous écouter, mais en tout cas, tout ce petit monde-là a évolué véritablement avec l'homme et qui a créé de la biodiversité.
Exactement, en fait... C'est à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, que les races sont apparues en France. Et en fait, on parle toujours de destruction de la biodiversité à raison, mais on sait aussi que l'homme est capable de faire épanouir cette diversité, notamment la diversité génétique, la création de races de vaches, toujours liées à un patrimoine, à un terroir particulier. Ça a été aussi l'émergence extraordinaire de cette diversité génétique que peut produire une espèce.
Mais alors quand il a fallu quand même nourrir la France, il y a quand même eu des ingénieurs qui se sont dit « Bon écoutez, non, vous êtes très gentils avec vos races locales, mais ça, ça ne nous intéresse pas. » De même qu'on a spécialisé les territoires de façon agricole, on a aussi spécialisé les bovins.
Oui, c'est tout à fait ça. Le pic de diversité, c'est le début du XXe siècle, où l'agriculture est encore très traditionnelle et où les régions, les terroirs cultivent leur race de vaches, race extrêmement rustique, extrêmement adaptée à leur environnement, à leur milieu, au climat, etc. Et puis après la guerre, les Trente Glorieuses, il y a un ingénieur général de l'agriculture qui dit « il y a beaucoup trop de races, donc on va réduire drastiquement toutes ces races qui ne servent à rien et on va en garder que 6. 3 allaitantes, c'est-à-dire essentiellement pour la viande, et 3 laitières pour le lait. » Et jusqu'à un certain moment, il y a eu quand même quelques irréductibles agriculteurs qui ont dit « mais nous vivons avec notre béarnaise, avec notre villarde, avec notre flamande, ça fait des générations qu'on a ces races, on en a toujours été très contents, on n'a pas du tout envie de les voir disparaître ».
Donc il y a eu un...
le début, je dirais presque d'une rébellion, mais qui a porté ses fruits.
Voilà, vous avez employé le mot de rébellion avant que je l'emploie. Alors maintenant, quelle est la bonne voie, on va dire, de reconquête? Parce qu'il y a quand même un engouement assez incroyable. Lorsque l'on voit, par exemple, la fête de la vache nantaise en Loire-Atlantique, c'est 45 000 personnes donc, qui se précipitent. Donc, les gens sont attachés à cela.
Alors, il y a deux choses qui ont joué. Une qui est effectivement, le français est quand même le plus souvent d'origine rurale et paysanne, donc ça lui parle parce que quelque part ça le renvoie à ce qu'il était jeune ou à ce que lui racontaient ses parents et ses grands-parents. Donc il est attaché à ce patrimoine domestique. Ça c'est une chose. Et puis l'autre chose qui a fait que les vaches en particulier ont joué de chance, c'est que les agriculteurs, notamment des jeunes, ont bien compris que ces races étaient importantes, qu'elles avaient un rôle à jouer, qu'elles évitaient des coûts de vétérinaire énormes. Et comme se développe aujourd'hui une alimentation plus saine, une alimentation de circuit court, eh bien aujourd'hui, les éleveurs qui ont fait le pari de garder ces petites races, ils en profitent parce que aujourd'hui on préfère aller acheter un fromage fait avec une vache de la région dans laquelle on vit, de manger une viande d'une vache dont les origines sont véritablement liées au terroir dans lequel on vit. Et finalement, ces races qui étaient vraiment très très mauvaise santé il y a encore 25-30 ans, eh bien, elles sont en train de retrouver quelques couleurs. Et je pense que c'est vraiment une belle expérience, parce qu'il faut savoir qu'une race qui disparaît, c'est un fragment du patrimoine de l'espèce vache. Donc c'est toujours une fragilisation de l'espèce en question.
Un grand merci Philippe Dubois.
Merci Denis, à bientôt.
Et comme tous les dimanches, les derniers mots, pas les derniers mots de l'émission, Jacques Bonnafé.
On ne peut pas être à la fois désespéré et responsable, Saint-Exupéry.
Merci à Patrick Henry, à Marion Philippe, à Jérôme Boulet qui réalisait l'émission. La semaine prochaine, direction Marseille, plein sud, mais surtout les Calanques. Je vous retrouve à 19h54 pour l'Atelier du Mont-Petit-Loup. N'oubliez pas le podcast, le Twitter Denis Chessou. Je vous souhaite un très bon dimanche.